France Inter.
Bonsoir Céline Aslo.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
À la une du 18-20 et du premier journal de la soirée, Kenji Girac aurait dit avoir voulu simuler un suicide.
Oui, sa blessure par balle ne résulte pas d'une manipulation accidentelle comme le chanteur l'avait d'abord affirmé. Les enquêteurs ont aussi exclu l'intervention d'un tiers. Le procureur de Mont-de-Marsan a levé une partie du mystère au cours d'une conférence de presse. On y revient au début de ce journal. Emmanuel Macron plaide à nouveau pour l'Europe de la défense avec pourquoi pas un bouclier antimissile. On détaillera le discours du chef de l'État consacré à l'avenir de l'Union européenne. Il faut mieux se préparer au risque de catastrophes climatiques ici en France. C'est le message de la Croix-Rouge qui rendait tout à l'heure son rapport sur la résilience de la société française.
Et on en parlera avec Philippe Dacosta, c'est le président de la Croix-Rouge française et c'est l'invité de ce journal.
La mort d'une palme d'or, le cinéaste Laurent Cantet est décédé à l'âge de 63 ans. On l'entendra tout à l'heure sur le succès de son film Entre les murs. Dans l'actualité aussi, la Joconde doit-elle quitter le Louvre ? Une mystérieuse association réclame sa restitution. Le Conseil d'État se penchait tout à l'heure sur cette étrange demande. Et puis de la poésie ce soir au printemps de Bourges, avec une jolie création que nous présente Mathieu Culeron depuis le festival.
Dans le 18-20 ce soir, en trois mots, ça commence avec des œillets, ceux du Portugal qui ont 50 ans dans un pays rattrapé par les fantômes d'avant. Ce sera le décryptage d'un jour dans le monde. Il y a aussi du steak de baleine ce soir, japonais. Le Japon qui a inauguré un nouveau baleinier et qui veut même faire partager cette viande aux touristes. Il y a aussi des journalistes, des Slovaques, habillés tout en noir. Céline Aslo, vous nous expliquerez pourquoi. Ce soir, vous verrez aussi dans Le Monde à 18h50 que les Israéliens désespèrent d'avoir des nouvelles de leurs otages. Et Stéphane Jourdain, dans La Tech, la première, nous racontera combien la Russie est en train de pilonner la France en propagande et autres fake news. En deuxième heure, c'est le téléphone sonne. On parle des élections européennes ce soir. On a envie de savoir si vous êtes dedans, si vous êtes intéressé, si vous suivez ou s'il faut un peu vous élitreuiller pour vous intéresser à ce scrutin. Allez, allons-y.
France Inter.
Que s'est-il passé donc dans la caravane de Kenji Girac au cours de la nuit de dimanche à lundi ?
Question qui provoque depuis quelques jours beaucoup de curiosité, beaucoup d'hypothèses aussi, tant il semblait difficile de savoir ce qui avait mené le chanteur de 27 ans à l'hôpital, victime d'une blessure par balle au thorax. Il faut dire qu'une forme d'omerta a marqué le début de l'enquête, c'est ce qu'indiquait tout à l'heure le procureur de Mont-de-Marsan au cours d'une longue conférence de presse très détaillée. Bonsoir Ariane Grissel.
Bonsoir.
Et selon ce procureur, Kenji Girac a donc voulu simuler un suicide.
Ah oui, la soirée de dimanche dernier est décrite par le procureur comme tendue entre Kenji Girac et sa compagne. Le chanteur boit beaucoup, il avait plus de 2,5 g d'alcool par litre de sang quand les secours sont intervenus. Il prend de la cocaïne aussi dans la nuit. Le couple se dispute, elle menace de le quitter, d'où la suite relatée par Olivier Janson, le procureur.
Il indique qu'il a eu lui-même très peur quand il a entendu parler de départ et qu'il a, à son tour, voulu lui faire peur. En quelque sorte, il a simulé un suicide, dit-il. Il précise qu'il a alors omis de vérifier si le chargeur comprenait des munitions ou pas.
Voilà donc pour la version de Kenji Girac livrée hier aux enquêteurs. Vous vous doutez que les gendarmes ne se sont pas contentés de son récit. Ils ont analysé la scène. Au moment du tir, le chanteur était dans sa caravane près du mur.
La présence d'un tiers est matériellement impossible. Il n'y a pas la place, concrètement, entre le mur extérieur et Kenji Girac pour qu'un tiers se trouve à cet endroit-là.
On ne peut pas être poursuivi pour tentative de suicide. L'enquête devrait donc s'arrêter bientôt. Quant à l'arme, le procureur ne croit pas à la version selon laquelle elle a été achetée sur une brocante. Mais il annonce qu'il ne poursuivra pas l'artiste pour ce fait. Kenji Girac a failli mourir, il dit regretter. La loi, précise Olivier Janson, doit dissuader. Et en la matière, juge le procureur, la leçon a été largement entendu.
Merci pour ces précisions, Ariane Grissel du service police-justice de France Inter. L'Europe peut mourir et cela dépend essentiellement de nos choix. Dans un grand discours que beaucoup d'opposants ont qualifié d'entrée en campagne, Emmanuel Macron a dressé le bilan de l'état de l'Europe et a présenté ses préconisations sur l'économie, la politique commerciale, les investissements, mais aussi et peut-être surtout sur la défense. Angélique Bouin, le chef de l'État souhaite la création d'une initiative européenne de défense crédible, notamment face aux missiles russes.
Les règles du jeu ont changé, dit le président, du fait de puissances désinhibées comme la Russie ou l'Iran. Il appelle à un réveil face au réarmement généralisé du monde. Il faut bâtir, dit-il, une initiative européenne de défense qui pourrait inclure un bouclier antimissile européen, une sorte de dôme de fer, une idée déjà sur les rails à l'initiative de l'Allemagne, que la France a dans le passé vivement critiquée car les technologies envisagées par Berlin sont américaines, israéliennes et allemandes. Le chef de l'État a aussi appelé à accélérer la création des déjà prévu, d'une force rapide d'intervention européenne de 5000 militaires et à unir les forces des 27 en matière de cybersécurité. Et pour financer une industrie européenne de défense à la hauteur des enjeux, il soutient l'idée d'un nouvel emprunt commun de 100 milliards d'euros, proposition de la première ministre estonienne, auquel Berlin est très opposé. Avec le dérapage actuel des comptes publics en France, ce sera difficile pour Paris de convaincre le chancelier allemand et les pays dits frugaux. Bruxelles, Angélique Boin, France Inter.
Le scandale avait marqué le début du mouvement MeToo et la libération de la parole des femmes dans le cinéma. 4 ans après la condamnation d'Harvey Weinstein pour abus sexuels, la cour d'appel de New York vient d'annuler le jugement. Elle estime que le juge, à l'époque, avait commis une erreur en laissant témoigner à la barre des femmes dont les accusations n'avaient pas été retenues dans le dossier. Annulation profondément injuste, réagit à l'instant un groupe de victimes. On part à New York dans le journal de 19h. Il s'agit d'une violation grave et inacceptable des droits et libertés fondamentales. La France dénonce avec vigueur la condamnation à mort du rappeur iranien Tomaj Salehi. Le musicien de 33 ans avait soutenu via ses chansons et sur les réseaux sociaux le mouvement de contestation contre le pouvoir. Il est en prison depuis octobre 2022. En Afrique de l'Est, la saison des pluies est meurtrière cette année. 155 personnes sont mortes en Tanzanie, 13 au Kenya, en raison d'inondations et de glissements de terrain sous les fait du phénomène El Niño et du changement climatique.
La suite, c'est en France. Sommes-nous suffisamment prêts au risque de catastrophe climatique ?
La réponse est non, selon la Croix-Rouge, qui rend ce soir un rapport sur la résilience de la société française. Canicule, sécheresse, inondation, ces événements s'invitent de plus en plus souvent dans le quotidien des Français. Mais ils ne sont pas prêts à y répondre. Ce rapport formule une série de recommandations. Par exemple, se former davantage aux gestes qui sauvent ou préparer chez soi un kit d'urgence en cas d'évacuation.
Bonsoir Philippe Dacosta.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de la Croix-Rouge française. Tiens, on va revenir justement sur ce que disait Céline à l'instant, à la fois les gestes qui sauvent et préparer un kit d'urgence en cas d'évacuation. Moi, ce qui me frappe dans les gestes qui sauvent, par exemple, vous avez évidemment raison, 40% des Français, 80% des Allemands, mais ça veut dire qu'il n'y a pas seulement aux crises climatiques qu'on n'est pas formés. C'est aux crises tout court, hein, en fait. C'est même plus que ça, non ?
Oui, en effet, je pense que le fait est que près de 44 millions de Français sont par exemple exposés au risque d'inondation aujourd'hui dans notre pays. Et donc les Français restent mal préparés ou se sentent mal préparés face aux événements extrêmes. Et donc il y a un vrai enjeu à promouvoir non seulement les gestes qui sauvent, mais aussi les comportements qui sauvent, de manière à ce que chaque citoyen se sente aussi concerné par les crises.
Et alors chaque citoyen, Philippe Dacosta, est-ce que ça veut dire ce fameux kit d'urgence ? Est-ce que c'est pour tout le monde, où que l'on soit ? Ou est-ce que justement, dans la culture du risque, il y a aussi savoir où je vis et donc ce que je risque et à quel moment.
En effet, c'est aussi connaître son territoire, connaître son lieu de vie. Mais lorsque la Croix-Rouge française promeut son sac d'urgence, c'est tout simplement la prise de conscience de ce qu'est d'avoir une radio à pile près de soi, d'avoir une trousse de premier secours, une lampe de poche. Et c'est autant d'objets qui permettent aussi de sensibiliser aux risques. Et c'est aujourd'hui seul un Français sur 10 à préparer ce type d'outils. Et nous pensons que ça peut être une façon de se mobiliser et de sensibiliser la population à ces risques.
Ça veut dire aussi, vous dites qu'il faut du stock de matériel quelque part, il faut des moyens logistiques et ça aussi c'est intéressant. Il faut que à la fois ce soit nous à titre individuel qui soyons plus prêts, mais aussi la collectivité à laquelle nous appartenons, parce que l'un ne peut pas aller sans l'autre.
En effet, l'expérience acquise par la Croix-Rouge française dans les Outre-mer avec des plateformes d'intervention logistique nous convainc de la nécessité d'élargir ce prépositionnement de matériel, mais pas seulement du matériel, c'est aussi la sensibilisation, la formation des citoyens, et puis aussi la prise en compte des risques en matière de santé mentale de nos concitoyens, parce que quand ils perdent un bien, ils perdent beaucoup et il faut accompagner la population face à ces nouveaux risques.
La culture du risque, vous le disiez, nous ne l'avons pas, les Français le disent aussi d'ailleurs, hein, parce qu'ils disent qu'ils ne se sentent pas préparés à 75% aux inondations, à 73% aux incendies de forêt, à 59% à la canicule. Donc ils le savent, ça veut dire que finalement, on n'est pas loin. Mieux se préparer au feu, aux inondations, c'est-à-dire fuir, avoir son sac, on peut comprendre. Mieux se préparer à la canicule, ça peut être quoi ?
Ben, tout simplement, les points d'eau, l'accès à l'eau, des points de fraîcheur. Nous poussons notamment à côté du plan grand froid qui est installé dans le paysage, installer un plan grand chaud. Parce que il faut avoir aussi une attention particulière vers les plus fragiles, les plus vulnérables. Et c'est vrai que l'accès à l'eau potable, l'attention aux personnes sans abri, aux mal logées, c'est aussi près de 4 millions de nos concitoyens qui sont concernés, avec 350 000 personnes qui sont sans abri.
Vous suggérez de créer un corps de volontaires pour intervenir également, qui se déploierait où, comment, sur le même modèle au fond que les pompiers volontaires, c'est ça que vous dites, Philippe Dacosta, mais qui serait vraiment dévoué à ça?
Nous pensons qu'il y a aujourd'hui toute une jeunesse que nous pouvons sensibiliser aux risques climatiques et qui peuvent rejoindre des associations agréées de sécurité civile et prendre leur part et devenir volontaires pour s'engager, sensibiliser la population, former la population et accompagner face aux risques.
Et en même temps, on n'est pas très loin, Philippe Dacosta, et c'est tant mieux, parce que ce que je retiens aussi de votre étude, c'est 9 Français sur 10 sont prêts à apporter de l'aide à leurs voisins. Et ça compte.
Il y a une grande générosité chez nos concitoyens. Il faut qu'on les mobilise, qu'on les sensibilise, qu'on les forme. Et nous pensons que c'est l'affaire de chacun. C'est un acte de citoyen, c'est un acte d'engagement qui nous concerne tous là où nous vivons.
Allez, que chacun aille préparer son sac, son kit. Philippe Dacosta, président de la Croix-Rouge française. Merci beaucoup.
L'actualité ce soir, c'est aussi la RATP qui propose des primes JO aux conducteurs du métro et du RER. Bonsoir, Maxime Debs.
Bonsoir.
Au terme des négociations avec les syndicats, la direction met sur la table une prime de 1 600 euros pour les agents qui travailleront pendant l'été.
Oui, une somme qui pourra monter même jusqu'à 2 500 euros pour ces agents de conduite les plus assidus, les plus volontaires qui resteront à Paris pour les Jeux. Une prime au niveau des attentes, genre de proposition qu'on ne peut difficilement refuser, reconnaît Bastien Berthier, qui représente les conducteurs RER et métro pour Force Ouvrière.
Il n'y a pas de problème. L'entreprise reste sur l'accord qu'on a hier soir. Nous, on s'engage.
FO qui pèse 72% dans l'équilibre syndical et dont la signature suffirait pour valider l'accord. De quoi motiver les troupes et garantir un nombre suffisant de conducteurs cet été pour tenir la cadence. 1 600 euros de prime de base pour les agents de conduite qui s'asseyeront sur leur congé. Prime qui pourra, je vous le disais, monter jusqu'à 2 500 euros à condition de remplir vraiment toutes les cases. En somme, ça ne concernera qu'une toute petite poignée d'agents.
Pour toucher 2500 euros, il faut être présent sur toute la période du 22 juillet au 8 septembre. Il faut que le collègue soit présent non-stop. Et il faut qu'il soit sur des lignes qui sont très fortement impactées par les Jeux Olympiques. Parce que chaque ligne ne touchera pas le même montant de prime à l'acte.
Et certaines lignes seront en effet beaucoup plus sollicitées que d'autres. On pense à la ligne 9 du métro qui conduit au Parc des Princes à Roland-Garros, au RERB qui mène au Stade de France, au Village Olympique, où les cadences ne seront pas les mêmes. Normal qu'il y ait des compensations, réagit ce soir Jean Castex, le président de la RATP.
Merci Maxime Debs, service économique et social de France Inter. Et puisqu'il est question de transport, le salon de l'automobile de Pékin vient d'ouvrir ses portes, l'occasion pour les géants chinois de tenter d'attirer de nouveaux clients, notamment dans le secteur ultra concurrentiel de l'électrique. Il existe 129 marques de voitures électriques en Chine. Le pays est de loin le leader mondial, tout comme sur les panneaux solaires. La Chine en produit tellement qu'elle fait face à un phénomène de surcapacité. Les géants chinois du solaire, contraints de licencier. C'est une enquête de Sébastien Berriot à Xi'an, dans le centre de la Chine.
En apparence, tout semble normal ici dans la grande banlieue de Xi'an, devant cette immense usine du groupe LONGi, le leader mondial des panneaux solaires. Mais l'activité est en réalité réduite. Le site est en train de se séparer d'une partie de son personnel, nous confirme cet employé qui prend son service.
En ce moment, il y a des licenciements. La moitié de notre équipe a été licenciée. Je ne sais pas encore si je serai concerné, mais ce sera peut-être le cas.
Les panneaux solaires chinois, victimes de leur succès, il y a trop de fabricants et les invendus s'accumulent dans les entrepôts. LONGi reconnaît vouloir licencier 5% de ses 80 000 employés en Chine, mais ce commerçant qui travaille devant l'usine de Xi'an estime qu'ici, c'est beaucoup plus.
On est plutôt autour de 30% de licenciements. Je vends de la nourriture devant l'usine depuis des années, alors bien sûr, je le sais tout ça.
Parmi les personnes déjà licenciées, cette mère de famille.
J'ai été convoquée par le département des ressources humaines et on m'a notifié mon licenciement. On m'a expliqué que le marché n'était pas bon. J'ai l'impression que c'est parce que le produit ne se vend pas bien.
Mais malgré ce contexte difficile, les géants chinois des panneaux solaires font tout pour conserver leur rang de leader mondial. Tout en licenciant sur certains sites comme celui de Xi'an, ils investissent aussi en parallèle sur de nouvelles usines plus performantes, en particulier à l'étranger. Xi'an, Sébastien Berriot, France Inter.
La Joconde doit-elle être radiée des collections du musée du Louvre hein.
C'est la question à laquelle va devoir répondre le Conseil d'État, saisi par une association qui réclame la restitution du chef-d'œuvre de Léonard de Vinci, estimant que le roi François Ier s'est approprié le portrait de Mona Lisa. Bonsoir Emmanuel Leclerc.
Bonsoir.
Cette étonnante demande provient d'une association intitulée International Restitution, dont on ne sait finalement pas grand-chose.
Ben oui, l'association a changé ses statuts récemment après plusieurs échecs devant les tribunaux administratifs en France pour obtenir notamment le départ de différentes œuvres en Chine. Là, ce serait donc pour un retour en Italie pour la Joconde au profit officiellement des héritiers de Léonard de Vinci et du peuple italien. Mais en ne venant pas physiquement à l'audience au Conseil d'État avec vue sur le Louvre, en ne prenant pas d'avocat très spécialisé, celle ou celui qui se cache derrière cette mystérieuse association a quelque peu plombé sa requête. Les réquisitions du rapporteur public ont duré quelques minutes. C'est étonnant que l'association remette en cause à ce point l'origine de l'appropriation de la Joconde par François Ier, selon elle, après la mort de Léonard de Vinci, quand les historiens s'accordent à dire que le tableau du maître aurait été cédé lorsque Léonard de Vinci a trouvé refuge en France. Mais cette histoire, selon le rapporteur, de toute façon n'a rien à voir avec des spoliations d'œuvres comme lors de la Seconde Guerre mondiale, rappelant que l'inscription de la Joconde au patrimoine du Louvre ne dépend pas juridiquement de ce qui s'est passé il y a 500 ans et de réclamer le rejet complet de cette requête visant à retirer du musée parisien le joyau de la Renaissance.
Merci Emmanuel Leclerc et on devrait connaître la décision du Conseil d'État d'ici 2 à 3 semaines. Lui fait partie des rares Français à avoir décroché la Palme d'Or à Cannes. C'était en 2008 pour son film Entre les Murs qui racontait le quotidien d'un collège du nord-est parisien. Laurent Cantet est mort à l'âge de 63 ans des suites d'une maladie. Il y a quelques années sur France Inter, le cinéaste était revenu sur la liberté qu'il avait gagné avec cette Palme d'Or.
Ça m'a certainement rendu possible le film que j'avais envie de faire à ce moment-là, qui était Foxfire, qui était un film plus cher que tous mes films précédents, qui par ailleurs que je voulais par ailleurs faire exactement comme j'avais envie de le faire, c'est-à-dire comme je travaillais habituellement, sans un casting imposé, sans et ça je pense
et à
que
l'étranger la... aussi
et à l'étranger oui bien sûr et c'est vrai que je pense que la Palme d'Or et puis le succès commercial aussi d'Entre les Murs a rendu possible cette aventure.
Laurent Cantet au micro d'Augustin Trapenard. Le Festival de Cannes salue la mémoire d'un humaniste acharné qui cherchait la lumière malgré la violence sociale, qui trouvait l'espoir malgré la dureté de la réalité. Et puis il fait partie des signes comme le retour des bourgeons, l'ouverture des terrasses qui montrent que l'été n'est finalement plus si loin. Le printemps de Bourges a ouvert ses portes avec une grande place faite cette année à la poésie, aux œuvres littéraires. Ce sera le cas notamment ce soir avec cette collaboration entre la musicienne Lucie Antoine et la comédienne Anna Mouglalis. Et c'est Mathieu Culeron qui nous présente ce projet.
Les deux artistes se rencontrent sur une adaptation des Sorcières de Mona Chollet. Cette fois, pour le Printemps de Bourges, Anna Mouglalis et Lucie Antounès adaptent Les Guerrières de Monique Wittig, un texte de 1969 d'une très grande liberté. Lucie Antounès.
Sur cette créale-là, l'idée c'était quand même de contourner la lecture musicale et de faire vraiment un concert. Moi, j'ai fait un morceau qui s'appelle La Chair avec sa voix et un texte qu'elle a écrit. Et ce qui m'amuse, c'est de mettre sa voix en musique. Non seulement le texte est fort, mais la voix d'Anna, elle le porte. Et c'est une voix qui est très musicale parce que du coup, on peut en faire plein de choses. Ça peut être une matière sonore et ça peut être aussi juste du texte. Je vois, à chaque fois que je fais un projet, j'ai envie qu'elle soit là.
La musique de Lucie Antounès qui a su épouser les graves de la voix d'Anna Mouglalis, l'actrice qui a fait une plongée dans l'univers électro de la percussionniste.
La puissance lyrique de Lucie Antounès, la capacité à faire des montées mais sans arrêt, c'est quelque chose qui me donne une liberté folle.
Anna Mouglalis et Lucie Antounès à Bourges, l'une des créations consacrées au grand texte et à la poésie dans un palais Jacques Coeur, rebaptisé pour l'occasion le palais de la poésie.
Les surfaces opaques et les grandes mains sèches ne lui donnent rien, tout au plus un écho.
Reportage de Mathieu Culeron depuis le Printemps de Bourges qui se poursuit jusqu'à dimanche.
La puissance de cette voix-là, Céline Aslo, merci. À tout de suite dans Sous les radars. Avant cela, on jette un œil sur le ciel.
La météo avec Euromaster. Tout
toujours là pour entretenir les véhicules électriques, hybrides et thermiques. Euromaster, toute notre expertise pour les pros au service des particuliers.
Dit Calac des averses demain.
Et oui, sur la plupart des régions, un réveil encombré avec quelques averses. L'instabilité se renforcera pour l'après-midi. Les averses pourront s'accompagner d'orages, en particulier des Pyrénées jusqu'au nord-ouest. Les averses seront déjà plus marquées le matin, hein, également vers la basse vallée du Rhône, la Provence, les Cévennes, puis à l'est du Rhône pour l'après-midi. Ce sera de la neige sur les Alpes et le Massif central, vers 1300 à 1500 mètres le matin, puis 1700 mètres l'après-midi sur les Alpes et les Pyrénées. Mais on trouvera quand même quelques éclaircies appréciables entre ces averses demain, notamment dans l'est l'après-midi, et même de bons moments de soleil des Pyrénées jusqu'au Languedoc-Roussillon, en Corse, et puis aussi sur le littoral atlantique pour l'après-midi.
Et des températures en hausse progressive.
Oui, le risque de gelée ne concernera plus que les massifs demain matin. Il fera souvent 3 à 10 degrés en plaine, et puis l'après-midi, 12 à 16 degrés au nord et 14 à 19 au sud, ça remonte doucement.
Allez, Élodie Calac de Météo France, merci. On se retrouve tout à l'heure, ce sera juste après le journal de 19h.